chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Jean-Christian Petit-Fils fait l'inventaire, pour le Figaro Histoire, des clichés et idées reçues sur le roi Soleil, véhiculés par l'historiographie et la tradition. Ils sont légion. Son intelligence était au-dessous du médiocre. C'est le terrible duc de Saint-Simon qui l'affirme avec son exagération habituelle. Mais comment le croire quand tout ce qu'il dit du roi est frappé du sceau de la malveillance? S'il n'a pas toujours eu, dans sa jeunesse, le goût de l'étude, Louis XIV, hardi cavalier, grand amateur de chasse et de plein air, comme tous les Bourbons, brûlé du désir d'apprendre à la perfection son métier de roi. Il s'enfermait des heures entières dans son cabinet pour étudier les dossiers à loisir. Il est vrai qu'il n'était pas un surdoué, à l'intelligence vive et rapide, mais il avait une mémoire prodigieuse. Il parlait peu, mais aimait briller. Il feignait l'indifférence, mais il était émotif et avait la larme facile. Il était d'un abord froid, mais cherchait à plaire. On ne saurait nier non plus son courage, la guerre, comme devant les épreuves. En fait, la timidité le poussait à l'orgueil et à la méfiance. En compagnie restreinte, en revanche, il se montrait gai, spirituel, malicieux. La qualité la plus remarquable était cette volonté de se dompter lui-même, de maîtriser ses impulsions en toutes circonstances, pour afficher l'image marmoréenne, digne, droite et pondérée de la majesté royale. C'est pendant la Fronde, dans les carrosses bruns ballant à travers les campagnes dévastées, qu'il a fait son éducation politique et forgé son caractère. Dès son jeune âge, on avait remarqué son côté sérieux et grave, avec parfois un air alangui, contrastant avec la vivacité de son frère. « Il est de tempérament sanguin, » disait l'ambassadeur de Venise. Mais point trop vif, car il est mêlé de tempérament mélancolique. Ses camarades de jeu, Guiche, Tréville, Lesdiguières, Rohan, Brienne, le jugeaient gauche et s'irritaient de sa lenteur, sans discerner sa volonté de faire, son sens profond de la dissimulation. Le cardinal Mazarin, surintendant de son éducation, qui le connaissait bien, l'avait prédit. Il se mettra en chemin un peu tard, mais il ira plus loin qu'un autre. Sa mère, Anne d'Autriche, avait nourri dans son cœur le goût de l'autorité souveraine, l'orgueil monarchique et le mépris des factieux. Ceux qui avaient l'honneur de l'approcher, notait Madame de Motteville, dame d'honneur de la reine-mère, lui disaient trop souvent, ce me semble qu'il était le maître. Une leçon que Louis n'eut aucun mal à retenir. Sa piété n'était que façade. Sous l'Ancien Régime, le pouvoir était d'essence divine, et le prince, personnage sacré, n'avait de compte à rendre qu'au Créateur. Considéré comme évêque du dehors, le très chrétien recevait à son sacre l'onction du Saint-Crème et exerçait une fonction thaumaturgique, guérissant les malades, atteints d'adénite tuberculeuse lors de la cérémonie pluriannuelle du toucher des écrouelles. Il présidait le conseil de conscience et en vertu du concordat de Bologne, en 1516, il nommait les évêques, le pape se contentant d'expédier la bulle conférant l'institution canonique. La vie de Louis XIV fut constamment rythmée par les innombrables offices, cérémonies religieuses et rituels publics auxquels jamais il ne se déroba. Mais que dire de sa foi, sinon que le fils de la pieuse Anne d'Autriche n'a pas été un souverain toujours édifiant, négligeant les sacrements, s'affichant sans vergogne avec ses maîtresses. Loué, glorifié comme un dieu, n'a-t-il pas délaissé Dieu? Dieu seul est grand, mes frères, tonnera Massillon du haut de sa chair lors de son oraison funèbre. À partir de 1679, on sent le roi revenir à la pratique chrétienne. Il se livre à des exercices de piété, égrène son chapelet durant la messe, communie les jours de fête, adore le Saint-Sacrement. Son cheminement spirituel est encore plus visible après la mort de Marie-Thérèse en juillet 1683. Beaucoup n'ont voulu voir dans ce retour tardif à la religion qu'étroite bigoterie insufflée par Madame de Maintenon, sa seconde épouse. Cette interprétation malveillante semble erronée, autant qu'on en puisse juger par le comportement du vieux roi. Sa foi fut sincère et profonde, même si elle tint peut-être plus de la soumission au dieu austère et redoutable de Bossuet ou de Bourdaloue que de l'abandon filial et confiant dans la miséricorde divine autrefois prêchée par François de Sales. Sa pathétique agonie, cela ne fait aucun doute, fut celle d'un authentique chrétien, plein de courage et de dignité. S'efforçant à l'humilité, il fit preuve alors d'une piété ardente, d'une stoïque fermeté et d'une vraie grandeur d'âme. Ceci n'enlève rien, bien sûr, à l'hypocrisie des gens de cour, soucieux d'imiter leur maître, qui se firent dévots par flagornerie. Ce Stabat Mater, facut ardeat cor meum, Margaret Marshall, soprane, Lucia Valentini Terrani, mezzo-soprane, et l'Orchestre symphonique de Londres était dirigé par Claudio Abbado. Il était entouré d'une cour de parasites. La cour formait l'entourage habituel du roi. Elle était composée de sa famille, des serviteurs chargés d'assurer sa vie quotidienne et des grands dignitaires de l'État. Jusqu'en mai 1682, date à laquelle Louis XIV la fixa à Versailles, cette cour était itinérante, allant d'un château à l'autre, le Louvre, les Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, Chambord, Fontainebleau. Le monarque la développa de façon considérable, la faisant passer d'environ 600 personnes au début de son règne à plus de 7000 à la fin. Multipliant les charges commensales, les services par quartier, les trimestres, il en avait fait le vrai centre du pouvoir. Oui, c'est volontairement qu'il attira à lui la haute noblesse, dans le but très politique de la surveiller étroitement. Il la poussa sciemment à se ruiner en équipage, en habits luxueux ou au jeu, afin de la réduire à dépendre de ses bienfaits. Il préférait les inévitables intrigues de couloirs, faciles à contrôler, aux prises d'armes en province, contre lesquelles il fallait envoyer des armées entières. Comprenons bien qu'il ne s'agissait aucunement de convoquer à Versailles toute la noblesse de France, qui représentait environ 200 000 personnes, mais son élite, les princes, les ducs, les pairs et leurs proches, qui par leur puissance provinciale et leur clientèle avaient une grande influence sur la noblesse seconde, marquis et comtes, et la petite noblesse non titrée. Cette aimable gavotte était de Jean-Philippe Rameau. Tandis que la cour, lieu du bon goût et du luxe, lançait la mode jusque dans les lointaines provinces, dépensait sans compter, il plaisait au roi d'arbitrer les querelles de préséance, de fixer les règles de l'étiquette, afin de contrôler et de manipuler la hiérarchie sociale. Pourtant, cette politique échoua en partie. Dès les dernières années du règne, la jeunesse dorée préféra se rendre en bande joyeuse dans ses hôtels parisiens et y faire la fête plutôt que de s'ennuyer en présence du couple morose, du vieux roi et de Madame de Maintenon. Plus durablement, après sa mort, la haute aristocratie, mécontente d'avoir perdu une grande partie de son pouvoir politique, se jettera dans une réaction nobiliaire qui aura raison de la monarchie elle-même. Telle sera la pré-révolution de 1787 et 1788. Trop peu nombreuse et dépourvue de l'assise économique nécessaire, elle se laissera dépouiller de son pouvoir par le peuple et les élites bourgeoises à qui elle avait soigneusement interdit l'accès de ses rangs. Voici l'allegro du concerto grosso en si bémol majeur de Handel, la Water Music. Il a trop aimé la guerre. On connaît les conseils donnés par Louis XIV sur son lit de mort au petit dauphin, futur Louis XV. Ne m'imitez pas dans les guerres. Tâchez de maintenir toujours la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez, ce que j'ai eu le malheur de ne pas pouvoir faire par les nécessités de l'État. Vain regret d'un monarque qui, en 54 années de règne personnel, en avait consacré près de 33 à la guerre. Les historiens du XIXe siècle n'ont pas manqué d'insister sur ce constat accablant, condamnant sévèrement sa politique agressive et conquérante. Ces jugements excessifs ne sont plus de mise aujourd'hui. Les recherches d'archives, l'étude attentive de correspondances diplomatiques ont gommé bien des partis pris outranciers et permis une meilleure compréhension de la politique royale. L'école historique anglo-saxonne elle-même, peu encline a priori à juger favorablement le farouche adversaire de l'Angleterre, a précédé les chercheurs français dans leur appréciation plus sereine de sa diplomatie et de ses entreprises guerrières. Assurément, Louis XIV a aimé la guerre, mais l'époque l'y prédisposait. Au XVIIe siècle, les conflits armés étaient considérés comme un état naturel, entrecoupé de brèves périodes de paix. Tout conduisait à entretenir leur caractère endémique. La progressive formation des états-nations, la porosité des frontières, les rivalités dynastiques exacerbées par les alliances matrimoniales, le protectionnisme, né d'une conception mercantiliste de l'économie. Ce n'est qu'à partir de la paix d'Utrecht de 1713, qui mit fin à la terrible guerre de succession d'Espagne, que les rapports entre États eurent tendance à se transformer et que la paix fut considérée comme un progrès de la civilisation. On admet aujourd'hui que le roi de France partagea les conceptions et les comportements des autres souverains de son temps. Sans doute fut-il même plus scrupuleux, plus respectueux de la parole donnée que Guillaume III d'Orange, Charles II d'Angleterre, l'empereur Léopold, Victor Amédée de Savoie ou le grand électeur de Brandebourg, Frédéric Guillaume. Personnages tous brutaux ou cyniques. À plusieurs reprises, il accepta et même encouragea les missions de bons offices ainsi que les médiations étrangères. Cela dit, il est certain qu'il ne respecta pas toujours les principes de la guerre juste des théologiens, malgré son éducation de prince chrétien. La guerre de dévolution de 1667-1668, faite au nom des droits de la reine Marie-Thérèse dans les Pays-Bas espagnols et en Franche-Comté, ne s'imposait pas, au moment où il s'apprêtait à signer avec l'empereur Léopold un traité secret de partage de l'Empire espagnol. C'est l'impétueux désir de gloire qui le poussa à l'entreprendre dans sa 29e année. C'est la volonté de se venger des Hollandais qui l'avaient arrêté dans sa conquête des Flandres qui le détermina à se lancer ensuite dans la ruineuse guerre de Hollande, 1672-1678. Les autres grands conflits, guerre des Réunions, 83-84, guerre de succession palatine, dite de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, guerre de succession d'Espagne, 1701-1714, relève davantage de ses maladresses ou de ses erreurs de jugement que d'une volonté délibérée. Ils lui ont été imposés de l'extérieur par des opposants, Espagne, Empire, Angleterre, Provinces-Unies, Princes germaniques, impatients d'en découdre avec une France jugée trop arrogante et hégémonique. En politique étrangère, les objectifs du roi ne visaient nullement à ce qu'on appelait la monarchie universelle. Ils se limitaient à la conquête des frontières sûres. Puis, à partir de 1700, quand son petit-fils monta sur le trône d'Espagne, à la défense de la politique dynastique des Bourbons. À cet égard, aucune comparaison n'est possible avec Napoléon, les conquérants ou les dictateurs modernes aux ambitions effrénées. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.